RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une loi contre les mauvais payeurs au bénéfice des petites et moyennes entreprises. C'est l'ambition du gouvernement pour lutter contre les retards de paiement qui mettent en danger les petits patrons. 11 ans après la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines, les recherches vont reprendre ce matin dans l'océan Indien et Donald Trump très remonté contre Kiev, accusé par le Kremlin d'avoir visé une résidence de Vladimir Poutine.
La réponse du gouvernement à la fragilité des petites et moyennes entreprises.
Près de 20 000 seraient en danger chaque année. Pour certaines, c'est la conséquence d'une trésorerie mise à mal par des retards de paiement. Faire la chasse aux mauvais payeurs, c'est justement l'objectif de Serge Papin, le ministre des PME, qui va soutenir une proposition de loi contre le non-respect des délais de paiement. Bonne nouvelle pour ces petits patrons rencontrés à Lyon par notre correspondant Vincent Chevalier.
À la tête de plusieurs boulangeries pour les particuliers, mais aussi pour certaines entreprises comme des restaurants, Christophe Girardet a déjà eu affaire à des mauvais payeurs.
J'en ai un qui ne me paye pas, 10 000 euros, c'est quand même pas rien. Multiplié par 2, 3, 4 clients, ça peut faire très très vite des grosses sommes.
Également trésorier de la Confédération des PME du Rhône, il connaît bien les conséquences importantes que peuvent avoir de tels retards.
Si on ne me paye pas en temps et en heure, ça veut dire que moi, ça joue sur ma trésorerie et que je ne peux pas payer, encore une fois, mes salariés, mes fournisseurs, mon électricité, mon URSSAF, j'en passe et des meilleurs.
Le ministre veut durcir les sanctions contre les mauvais payeurs, mais peu d'entreprises osent vraiment s'attaquer à un client, selon René Coirot, patron et président de la Fédération des travaux publics dans la région.
Non, c'est compliqué, d'autant que ça reste nos clients principaux, donc c'est pas facile d'attaquer nos clients. On attend quelque chose de l'État pour vraiment régler ce problème-là, mais ça devient urgent pour les paiements en tout cas. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, ça serait d'être payé, de nous payer les intérêts moratoires automatiquement, ça serait déjà une belle avancée.
Malgré sa complexité administrative, la généralisation de la facturation électronique à partir de septembre 2026 pourrait déjà permettre de résoudre certains conflits.
À retenir également ce matin le report pour 4 ans de l'interdiction des gobelets jetables contenant du plastique. La mesure devait entrer en vigueur le 1er janvier, délai accordé par le gouvernement afin de laisser plus de temps aux industriels pour trouver une technique de faisabilité de gobelets sans plastique. Un espoir maintenant pour les familles des victimes du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Appareil censé relier Kuala Lumpur à Pékin, disparu des radars au-dessus de l'océan Indien en mars 2014. À son bord, 239 personnes. Parmi eux, 4 Français. Depuis, rien, aucune trace de l'appareil. Pas de corps, pas de débris. Les nouvelles recherches vont débuter ce matin. Lou Garnier, 11 ans après les faits.
Pendant 55 jours, l'entreprise Océan Infinity va passer au peigne fin 15 000 km² de fonds marins, l'équivalent de l'Île-de-France, au sud-est de l'océan Indien pour trouver des restes de l'avion. En 11 ans, c'est la 4e campagne de recherche, mais jamais le matériel utilisé n'avait été aussi performant, selon Patrick Blély. Il est pilote à la retraite et suit l'affaire depuis 2014.
La qualité du bateau est vraiment top aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Équipé de 3 sous-marins, ça ressemble à des grosses torpilles orange. On peut descendre jusqu'à 6 000 mètres, on peut le piloter sous l'eau, c'est autonome, ça a 100 heures d'autonomie. Et 2 robots qui pourront à la limite même descendre, chercher des éléments aux bottes noires ou autre.
Surtout, la zone a été réduite par rapport aux précédentes campagnes. Alors pour lui, c'est un peu la recherche de la dernière chance.
Les points ont été améliorés, les calculs, les zones qui ont été précisées. Si on n'a pas trouvé là, après il faudrait fouiller tout le sud de l'océan Indien et là... Donc voilà, on a espoir que cette fois-ci, ce soit la bonne.
Et l'entreprise n'en est pas à son coup d'essai. En 2019, c'est elle qui a retrouvé la Minerve, un sous-marin français disparu en 1968 au large de Toulon.
Les négociations de paix pour l'Ukraine fragilisées à l'heure où les discussions semblent aller dans le bon sens, accusées par le Kremlin d'avoir, qui dit avoir intercepté une centaine de drones. Volodymyr Zelensky a démenti avoir ciblé l'une des résidences de Vladimir Poutine. Le président russe en aurait informé son homologue américain. Donald Trump le croit sur parole et fait part de sa colère, Grégoire Morelli.
C'est la résidence d'été de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, à près de 2000 km de la frontière ukrainienne, qui aurait été visée par ces drones. Mais pour le général François Chauvency, expert des questions de défense, rien ne prouve que l'Ukraine est à l'origine de cette attaque, ni qu'elle a vraiment eu lieu.
Tant qu'on n'a pas d'image, tant qu'on n'a pas de traces, il faut regarder ça avec circonspection. Si elle est fausse, ou même si elle est vraie, cette attaque, elle permet à la Russie de se dire « nous ne suivons pas actuellement le processus de négociation tel qu'il est conçu ». Ça a aussi pour effet d'influencer Donald Trump.
Donald Trump qui a vivement condamné cette attaque malgré l'absence de preuves de la Russie. Pour Ulrich Bouna, analyste géopolitique, cela illustre le crédit que donne le président américain au propos de Vladimir Poutine.
Il est relativement frappant que Donald Trump ait repris un peu le narratif russe. Et donc ça indique que ce que dit Vladimir Poutine à Donald Trump, de façon générale, imprègne en quelque sorte Donald Trump. Il aurait pu s'adresser à ses services de renseignement avant d'en parler ou dire tout simplement « je vais me renseigner ».
L'Ukraine, de son côté, dénonce des déclarations dangereuses et accuse la Russie de vouloir saper les efforts diplomatiques en cours entre Kiev et Washington.
La Chine poursuit ses manœuvres militaires autour de Taïwan pour la deuxième journée de rang. Pékin a simulé un blocus des ports de l'île avec des tirs de munitions à réel. Et de fortes pluies attendues sur l'île de La Réunion. L'île est placée en vigilance orange ce mardi.
Et puis le soulagement du Maroc qualifié pour les huitièmes de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations.
Devant leur public très critique jusque-là, le pays de la compétition n'a pas tremblé face à la Zambie. Victoire 3-0. Premier de leur groupe, les Lions de l'Atlas. Valide leur billet pour la suite, reboosté, nous dit l'attaquant marocain Elias Ben Seguir.
Oui, bien sûr, on est une équipe assez confiante, on sait de quoi on est capable, on est conscient de nos qualités. Bien sûr, chaque victoire donne un peu plus de confiance pour les matchs d'après. Donc on prend les matchs après match et on essaie d'être le plus performant possible. On a appliqué les consignes de Walid Regragui à la lettre, ce qui n'était pas chose faite les matchs précédents. Et avec un peu plus d'envie, je pense le sursaut d'orgueil du fait des critiques, et ça a donné ça.
Autre qualifié, le Mali et l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Sénégal tenteront de les rejoindre ce soir, ce sera à vivre sur RMC. Et puis tiens, puisqu'on parle de foot, un maillot Vermonte, logo cuivré, ce pourrait être l'un des maillots de l'équipe de France. À la prochaine Coupe du Monde nord-américaine, vous allez me dire pourquoi un maillot vert, bah c'est un hommage à la statue de la liberté, cadeau de la France aux États-Unis. C'est Footy Headlines qui le révèle et qui annonce une sortie prévue pour le mois de mars. Les Bleus seront dans le groupe du Sénégal et de la Norvège à la Coupe du Monde, à vivre sur RMC Radio officielle. Et puis la France contre quatre nouveaux citoyens, pas des moindres, puisqu'il s'agit de la famille Clounet, Georges, sa femme, Amal, et leurs deux enfants résidant dans le plus beau département de France, le Var, du côté de Brignoles, Mathieu.
Je reste bluffé par cette autre info, le maillot vert.
Vous êtes resté bloqué. Un maillot vert, bah oui, c'est couleur statue de la liberté. Pour vous donner une idée un petit peu de la couleur de ce maillot.
C'est nul.
Non, il est magnifique. Il est magnifique. Non, mais okay. Ce sera le troisième maillot.
On aura ce débat quand en temps voulu.
Demain,
je vais aller voir ça quand même. Merci beaucoup, Timothée.